CFM spéciale élection.
Je ne fais pas du tout politique, monsieur.
Alors là, pas du tout.
Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections.
Après, c'est la politique, je ne connais rien.
Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages.
Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne.
Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace.
À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM.
Eh bien, Jean-Louis Calmette, vous êtes candidat aux élections législatives, à l'élection législative, pour devenir député de la deuxième circonscription de l'Aveyron. Vous êtes candidat Europe Écologie Les Verts, mais peut-être pas seulement.
Oui, d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur de Vezin. Non, je suis d'abord, bien sûr, Europe Écologie Les Verts, mais j'ai le soutien du mouvement écologiste indépendant, qui est le mouvement d'Antoine Wächter, qui avait soutenu Eva Joly durant les élections présidentielles, et qui d'ailleurs, lui aussi, est candidat dans l'Est de la France, et le soutien du Parti Occitan, qui est un parti régionaliste.
Et il y a eu, on en a parlé à l'occasion de l'élection présidentielle, il y a eu des accords électoraux, des circonscriptions réservées, des accords de désistement. Qu'est-ce qu'il en est sur cette deuxième circonscription et puis un petit peu autour ?
Alors nous avions bien en amont fait des pourparlers avec le Parti Socialiste pour pouvoir arriver à ces élections, et même avant les élections présidentielles, à un accord pour les élections législatives. Donc nous avions un accord d'abord programmatique, qui porte sur beaucoup de thèmes importants, et nous avions un accord ensuite pour deux candidatures afin que nous puissions arriver à faire un groupe écologiste indépendant à l'Assemblée nationale. Alors cet accord de législative porte sur une soixantaine de circonscriptions qui seraient réservées au départ à Europe Écologie Les Verts, dont il y avait une vingtaine de gagnables par les candidats, mais qui est dernièrement redescendu à peu près à 46 circonscriptions. Mais nous devrions arriver à avoir une quinzaine, une vingtaine de députés, ce qui nous permettrait d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale.
En Aveyron, il y a une circonscription concernée ?
Alors, il y a une circonscription réservée à Europe Écologie Les Verts en Aveyron, c'est celle de Millau, la troisième circonscription, où il y a une candidate Europe Écologie Les Verts qui est soutenue par le Parti Socialiste de l'Aveyron.
Et qui n'a pas, lui, de candidat dans cette circonscription ?
Eh bien, il y a malheureusement une candidate dissidente que nous espérons peut-être abandonnera avant ce premier tour.
Alors, j'en viens à vos engagements sur votre document de campagne, et on voit des choses, je dirais, abondantes. Vous suggérez, vous indiquez que vous pensez que le programme d'Europe Écologie et Verts, s'il pèse suffisamment à l'Assemblée nationale, serait en mesure de créer un million d'emplois. Un million d'emplois grâce à l'économie verte.
Grâce à l'économie verte, entre autres, mais bon, déjà, nous préconisons une baisse du temps de travail, hein, ce qui permettrait justement de créer déjà un peu plus d'emplois, ce qui me semble quand même important. Et c'est vrai que nous prévoyons, grâce à l'économie verte, la création de beaucoup d'emplois, notamment...
Vous avez écrit un million.
Oui, un million d'emplois, et ça a été chiffré par la Commission économique d'Europe Écologie Les Verts, qui était menée à l'époque par Pascal Canfin, qui est maintenant ministre du Développement, et qui a chiffré, qui a été contrôlé par des organismes. Alors, ces emplois, ce sont d'abord dans les bâtiments. Hein, quand on veut créer 500 000 emplois, quand on veut faire de la rénovation de bâtiments, obligatoirement, nous allons avoir beaucoup d'emplois de créer dans le bâtiment, dans les énergies renouvelables, que nous voulons fortement développer, dans la construction ferroviaire, parce que c'est aussi un problème. Les déplacements sont un problème, et le chemin de fer, ou même par la route, la construction de bus et de tout ça, ça me semble quelque chose d'important. Dans l'agriculture durable, parce que l'agriculture aussi, on perd énormément d'emplois depuis ces dernières années, et je pense qu'on peut en regagner avec une agriculture paysanne.
Est-ce que ça ne va pas alourdir ? Enfin, dans le cas des investissements, je comprends que ça crée de l'emploi et qu'il y ait une utilité écologique. Dans le cas de l'agriculture durable, est-ce que ça ne va pas renchérir les coûts et les prix des produits alimentaires ?
Je pense que justement, cette agriculture productiviste coûte cher, et très cher d'ailleurs, hein, à la société, mais coûte très cher aux agriculteurs qui s'endettent énormément pour construire des fermes qu'on leur demande de construire, faire acheter du matériel, des gros tracteurs, des gros appareils qu'on leur demande, et ils s'endettent auprès du Crédit Agricole, entre autres, là. Et nous avons des agriculteurs qui sont totalement perdus actuellement. Et revenir à une agriculture paysanne, et d'ailleurs on le voit un peu tous les jours, y compris en Aveyron, on a des agriculteurs déjà qui vivent mieux leur métier d'agriculteur et qui s'en sortent mieux financièrement.
Alors, effectivement, on peut imaginer qu'il y aura des emplois créés, puisqu'il y a d'une part les rénovations de logements, de bâtiments, pour trouver des économies d'énergie, mais également, vous indiquez que vous construiriez 500 000 logements de plus, et je rappelle qu'on essaie désespérément depuis des années d'en construire 150 000 par an, on atteint difficilement les 100 000, donc 500 000 de plus tous les ans. Vous comptez trouver les fonds comment, et organiser les bailleurs sociaux, les constructeurs de logements, comment pour parvenir à ça? Parce que c'est quand même multiplié par plus que 5, finalement, ce qu'ils produisent aujourd'hui.
Alors, 500 000 logements de plus par an, c'est bien sûr du logement social à faire par les bailleurs sociaux, mais c'est aussi du logement privé. Alors, comment financer, bien sûr, tous ces travaux et
on va retrouver la loi Cellier ou...
On ne va pas retrouver la loi Cellier. Je ne pense pas qu'on retrouvera la loi Cellier. Mais je pense que pour le financement, c'est un accord entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Ce n'est pas uniquement Europe Écologie, mais nous voulons à tout prix y arriver. Et d'ailleurs, nous sommes très fiers d'avoir une ministre qui est spécialisée au logement, qui vient d'Europe Écologie Les Verts. Je veux parler de Cécile Duflot. Alors, le financement, il se trouvera bien sûr d'abord le doublement du plafond de dépôt à la caisse d'épargne, donc de 15 000 on va pouvoir déposer 30 000 euros et normalement cet argent de la caisse d'épargne est fait pour le logement social et puis il faudra répartir peut-être un peu mieux les budgets et quand on dit qu'on veut faire 500 000 logements sociaux il faut y mettre les moyens financiers peut-être il faudra les prendre ailleurs hein.
On peut avoir un éclaircissement sur le ailleurs, là, c'est une avril.
Mais... Ah non, il y a peut-être des budgets, il y a des arbitrages budgétaires à faire, que ce soit dans le budget de la défense, que ce soit dans des budgets, par exemple, de grandes infrastructures. Donc je pense qu'il faut mettre un coup d'arrêt, que ce soit les lignes à grande vitesse ou les autoroutes. Il faut revenir à quelque chose de plus normal. Et peut-être cet argent que nous avons prévu dans les grandes infrastructures, le mettre dans le logement qui devient urgent.
Alors, toujours dans votre document de campagne, je vois la lutte contre les pollutions. Contre les pollutions, l'air, le bruit et les ondes. Alors, parler sur l'air et le bruit, bien sûr, mais en même temps, on entend rarement parler de la pollution des ondes. Et effectivement, on a pris des habitudes, on utilise des GPS, on utilise des téléphones GSM, on est environné de Wi-Fi. En fait, les radios nous envoient des ondes, même si nous n'allumons pas notre poste de radio, on les reçoit quand même. Enfin bref, on est envahi, submergé par des ondes radioélectriques. Mais on en a pris vraiment l'habitude, on serait certainement très privé. Comment voyez-vous ça?
Je pense que vous avez raison de dire, c'est vrai qu'on est entouré de toutes ces ondes. Et le problème, c'est que ça risque d'être justement le nouveau problème des années futures. Ça va être le scandale de l'amiante qu'on a découvert 70 ans après. On risque de découvrir dans quelques années que ces ondes électromagnétiques ont des effets néfastes sur la santé des hommes. Et c'est un grave problème. Alors moi, j'ai été concerné à la mairie de Decazeville là-dessus, avec l'installation des antennes relais juste à côté de la mairie. J'ai eu un combat amical avec mes collègues de la mairie et j'ai perdu, malheureusement. Il y a des antennes téléphoniques qui sont installées à côté de la mairie et qui donnent vraiment sur la mairie. Et d'ailleurs, on a fait des mesures qui sont très inquiétantes. Mais il faut dire qu'Europe Écologie Les Verts est très à la pointe de ce combat. Alors, bien sûr qu'on est pour les téléphones portables, mais il faut quand même réduire la portée et la puissance de ces ondes. En France, je crois que c'est le maximum 61 volts par mètre. Et alors que les associations environnementales recommandent 0,6 volts par mètre. Donc nous avons des normes françaises qui sont 100 fois supérieures à ce que demandent les associations.
Et à l'étranger, les deux voisins
À l'étranger, de toute façon, c'est beaucoup plus bas que ce qui est fait en France. Et nous avons du 0,6 volts par mètre, par exemple en Autriche. Nous en avons au Portugal et dans d'autres pays.
Alors, vous avez parlé, mais très rapidement, dans la création du million d'emplois, vous avez également parlé, quand même, vous avez évoqué, alors que ce n'est pas dans votre document de campagne, mais tout le monde se souvient qu'effectivement, au moment de la présidentielle, il a été parlé de 28 heures par semaine, qui auraient été ramenées à 32 assez rapidement avec une négociation avec le PS. Vous avez par contre, vous parlez dans votre document de campagne de lutter contre la souffrance au travail. Alors, je voudrais que vous nous précisiez un petit peu quelle est la position, quelle sera la position des députés verts sur la durée du travail d'une part et la souffrance au travail. Ça n'est peut-être pas la durée du travail qui est le moyen de lutter contre. Ça n'est peut-être
Réduire le temps de travail, c'est un moyen de lutter contre le malaise au travail déjà, mais c'est surtout un moyen de lutter contre le chômage. Parce que nous avons un chômage structurel, je dirais même, moi, que c'est un chômage organisé, parce que quand on a quand même 5 millions de chômeurs, on ne peut pas dire que c'est du conjoncturel. Alors, on sait très bien à qui ça profite, ce chômage. D'abord, aux entreprises qui ont là une main-d'œuvre corvéable à merci, et puis ça permet de tenir un peu les employés dans les entreprises. Pour pouvoir garder leur travail, ils sont prêts à accepter tout. Alors, oui, 32 heures, ça nous semble raisonnable. C'est d'ailleurs ce qui se fait déjà dans pas mal d'entreprises en France et à l'étranger. Et je préciserai même, 32 heures sur 4 jours, ça permettrait des économies, notamment dans les transports, beaucoup. Et ça se fait dans beaucoup d'entreprises maintenant aux États-Unis qui ont pris ça. On a des travailleurs et des salariés qui sont d'ailleurs beaucoup plus productifs, mais qui sont beaucoup mieux aussi dans leur vie et tout ça.
32 heures payées 40 ou 32 heures payées 40.
Non, non, il faut bien sûr pas de baisse de salaire, bien sûr, entendons-nous bien. Hein.
Bien, alors l'essentiel, le départ, l'accroche de votre document de campagne, c'est préparer la transition écologique. Alors on a vu un petit peu dans le détail ce que se proposait de faire et d'épauler les députés verts. Et vous, il est indiqué préparer la transition écologique. Alors on a l'impression que on va passer d'un monde à un autre, c'est-à-dire que l'idéal des députés verts, c'est de nous amener à un pouvoir, à un système écologiste. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce système? Comment serait la transition et à quel point les non-écologistes seraient-ils pris en compte?
Alors, on y est déjà passé dans un autre monde, mais on veut se fermer les yeux. On est passé à la fin de l'ère du pétrole. On découvre beaucoup moins de pétrole que ce qu'on en consomme actuellement. Et personne n'en tient compte actuellement. Personne ne tient compte encore du dérèglement climatique, qu'on appelle réchauffement, mais qui est en fait un dérèglement. Hein. Et personne ne tient compte de tout ça. Et nous, justement, nous voulons en tenir compte. Passer d'une économie après pétrole, et une économie après pétrole, ça ne veut pas dire que ce soit une économie nucléaire. Nous voulons sortir du pétrole.
Vous n'en parlez plus, d'ailleurs, du nucléaire.
Voilà, hein. C'est ça. Donc, je tiens quand même à dire deux mots. Passer d'une économie après pétrole, ce n'est pas les voitures électriques, ce n'est pas passer à une économie nucléaire. C'est d'abord économiser l'énergie, que ce soit dans tous les domaines, l'électricité, les transports. C'est, bien sûr, développer les énergies renouvelables, développer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire avoir le même confort, mais en consommant beaucoup moins d'énergie, diminuer bien sûr cette consommation électrique et bien sûr, comme je l'ai dit, développer les énergies renouvelables.
Alors dans votre document, et on va conclure là-dessus, vous parlez, et c'était une autre formation qui a évoqué la première, enfin du moins c'est ce que j'avais pu comprendre, la 6e République. Est-ce que ça veut dire que vous avez maintenant des accointances non seulement avec l'EPS, mais aussi avec le Front de Gauche? Et vous, qu'est-ce que c'est votre 6e République?
On a toujours eu des accointances, que ce soit avec le Front de Gauche ou avec des tendances du Parti Socialiste qui sont un peu plus ouvertes. Alors, notre 6e République, c'est d'abord avoir dans le millefeuille de notre gouvernement, c'est la suppression d'abord des départements qui ne servent plus à grand-chose, malheureusement. Et bien sûr, la redistribution de ces compétences à d'autres collectivités. C'est aussi regrouper les communes selon leur volonté à développer les intercommunalités. Et c'est par contre donner beaucoup plus de pouvoir aux régions, avoir des régions fortes qui soient capables de pouvoir rivaliser avec les régions, les autres régions d'Europe, que ce soit les Généralitats d'Espagne ou les Länder allemands, c'est-à-dire des grandes régions qui ont réellement une autonomie financière forte. Voilà. Et puis après, cette 6e République, c'est bien sûr limiter les pouvoirs du chef de l'État et du président de la République. C'est l'instauration d'une part importante de proportionnelle dans toutes les élections. Et c'est passer d'une gouvernance présidentielle à une gouvernance parlementaire. Pour nous, le Parlement a vraiment toutes les possibilités, hein. Voilà, et le Sénat qui serait transformé éventuellement en une chambre des régions, c'est aussi bien sûr le non-cumul réel des mandats, hein, qu'on ne puisse pas être par exemple député, conseiller régional ou maire et tout ça, c'est fini ça. C'est redéfinir peut-être le droit aussi des élus minoritaires, que ce soit dans les collectivités, que ce soit un peu partout. Et c'est bien sûr pour nous, cette 6e République, le droit de vote des résidents étrangers.
Bien. Eh bien, Jean-Louis Calmette, on est au terme du temps que CFM consacre aux candidats à l'élection législative dans la première et dans la deuxième circonscription de l'Aveyron. Je vous remercie et j'espère que nos auditeurs vous auront entendu.
Merci à vous.
CFM à Villefranche, 90.2. 90.2.